Chapitre 17, 13 août, 14h45. Olympe Sacks avait chaud sous l'abribus. Pourtant, elle ne bougeait pas du banc où elle avait pris place. Par moments, elle essuyait une goutte de sueur sur son front, où d'autres gouttes se formaient aussitôt. À la terrasse du café de la Tornade, tout avait l'air normal jusqu'à présent. Elle-même paraissait sans doute normale à un mètre de là, sur le même trottoir, à attendre sous son abri. Elle manipulait son téléphone pour lire et écrire des SMS. « Olympe, toujours rien sur Codislo ?» Pascal. « Non, mais ce gamin est une anguille. Pas trop chaud ?» Saxe releva la tête durant quelques secondes. Mauvais réflexe. Sans réfléchir, elle avait jeté un regard vers Pascal, posté à l'autre bout de la rue. Heureusement, en bon professionnel, elle avait fait comme si de rien n'était. « Olympe. »« Voilà, S !» Saxe avait d'abord reconnu leur indique, David Salierini était là aussi, un homme de petite taille, bien qu'il tentât de tricher avec des talons compensés. Même vêtu comme Monsieur Tout-le-Monde, chemise et pantalon fin, il inspirait la crainte de celui qui ne va pas vous parler ou vous regarder comme tout le monde. Instinctivement, on changeait de trottoir si on avait à le croiser. C'était certainement dû à sa ride de lion et à celle aux commissures des lèvres qu'il avait très prononcées. Cela lui donnait un masque de colère permanent. Ses petits yeux clairs, perçants et froids complétaient le tableau. Lorsqu'il passa tout près d'Olympe avec sa garde rapprochée, David et deux autres hommes à la carrure de colosse, elle ne put réprimer le frisson glacial qui lui parcourait le chine. Une minute à peine après qu'ils eurent pénétré dans le café, Polo la taf, un chauve râblé et tatoué sur les deux bras, ainsi que deux de ses compères apparurent à leur tour et leur emboîtèrent le pas. On y était, de quoi faire une belle prise, pourvu que le filet n'ait pas de trou. Sax observait du coin de l'œil ses adjoints se rapprocher, 13 flics contre 7 malfrats, dont un infiltré, le compte était bon. D'autant plus qu'ils allaient pouvoir bénéficier de l'effet de surprise, mais il ne fallait pas se rater. S'ils échouaient, cela signifiait l'arrêt de mort de David. Salierini ne mettrait pas longtemps à comprendre que quelqu'un l'avait vendu et de qui il s'agissait. C'était peut-être pour cette raison qu'Olympe transpirait de plus en plus. Montrant sa carte de police, elle avait demandé aux quelques badauds de s'éloigner. Elle avait enfilé un brassard rouge avec le mot « police » inscrit en noir à son bras. Puis avait sorti son arme doucement, lentement, suivie de sa brigade et de son fidèle Pascal, tous munis du même brassard d'identification. Elle approchait de l'entrée. Puis il fallut agir brusquement, presque sans réfléchir, comme quand elle se jetait à l'eau du haut des falaises de la corniche, quand elle était ado. C'était toujours la peur au ventre, le vertige, la crainte de se manger les rochers, mais il arrivait un moment où il fallait juste vider sa tête, fixer le soleil, sans remplir l'âme, et sauter. D'un coup de pied dans la porte, elle l'ouvrit, arme au poing, en hurlant « Personne ne bouge !» Tout lui en une seconde. D'abord, la stupeur dans les yeux, puis la haine, puis les flingues brandies et les coups de feu. Saxe visa le plus gros des molosses avant de se jeter derrière le mur. Un cri de douleur, puis encore un autre, deux flics blessés, Pascal. Il se tenait le bras tout en secouant la tête, l'air de dire « C'était pas grave !» Puis le fracas d'une vitre, un cri. Il est passé à travers la fenêtre, hurla Pascal, sur la droite. Boulevard de Strasbourg. Saxe s'y précipita, mais se rabattit rapidement contre le mur, évitant une balle de justesse. Salierini avait à peine été étourdi. Déjà debout, il courait de l'autre côté de la rue, où l'attendait un comparse à moto. Olympe ne réfléchit pas. Elle courut en direction de sa propre moto, y grimpa, démarra et partit en chasse de celui qu'on surnommait le couteau suisse, à l'arrière de la moto de son complice. Il avait décidément plus d'un tour dans son sac. Les deux motos remontèrent à toute vitesse le boulevard de Strasbourg, avant de bifurquer à droite sur le boulevard national. La chère moto d'Olympe bénéficiait d'une vitesse de pointe limitée, mais sa conductrice était bien plus légère que Salierini et de son acolyte Réni. Slalomant entre les véhicules, elle parvint à leur hauteur au moment de bifurquer à gauche dans la rue Guibal. Olympe réussit à éviter un camion de justesse, puis voulut barrer le passage aux deux mafieux pour les obliger à se ranger sur le côté. mais son moteur se mit brusquement à cafouiller. « Ah non, tu t'y mets pas, toi aussi !» gémit Sax en s'adressant à sa moto. Sa machine décida de lui tenir tête, pile au mauvais moment. Que se passa-t-il dans ses rouages ? Sax ne le saurait jamais. Elle comprit juste que le moteur s'était subitement arrêté, sans raison apparente. Ce qui la fit déraper en beauté. Le commissaire réussit à sauter de la moto in extremis et se réceptionna en boule sur le bitume, où elle effectua plusieurs roulés-boulés. Tout son corps ne fut qu'un choc. Égratignures, brûlures, déchirures, mais au moins, ne se fit-elle pas écraser par les autres voitures ? Déboussolée par l'accident, elle atterrit contre le trottoir de gauche, où son instinct de survie la fit grimper, malgré son corps endolori. Là, après une seconde d'étourdissement, elle vit que sa moto avait percuté celle de Salierini et que lui aussi était à terre, sain et sauf, de l'autre côté de la chaussée. Elle ne voyait pas son complice. Son cœur se pinça à la vue de sa Royal Enfield Bullet 500 en si triste état. Un vrai sale coup, qui lui fit détester encore plus le chef mafieux. Ce dernier se levait déjà et commençait à courir en boitant, longeant le mur qui séparait la route de la voie ferrée. Ce type était un surhomme. Olympe se lança péniblement à la poursuite de Salierini. Elle traversa la rue dès qu'elle put, afin que de ne pas le perdre de vue. Elle fit bien. À l'intersection de la rue Guibal et de la rue Clovis-Hugues, Salierini profita de l'ouverture d'un portail pour s'engouffrer sur les quais, dans le prolongement de la gare. Sax le suivit tout en se tenant la tête. Elle venait seulement de réaliser qu'elle saignait à cause d'une blessure au front. Ils se poursuivirent ainsi, chacun clopinant et claudiquant, armes au poing, sur une ou deux centaines de mètres. Olympe était en très mauvais état pour réussir à viser Salierini tout en courant. Elle espérait qu'il ralentirait ou tomberait carrément à terre. Si elle parvenait à s'approcher de lui de quelques mètres, elle pourrait l'atteindre. Elle en était certaine, mais pour l'instant, elle était trop loin. Courir, ou ce qui s'en rapprochait le plus, était la seule solution. Salierini atteignit le pont, la rue Jobin. Psychologie.com, 8 mois plus tôt. Effet Pygmalion et effet Golem. Si vous êtes persuadé des qualités intellectuelles et humaines de quelqu'un, vous lui transmettrez cette croyance, sans vous en rendre compte. Et la personne finira par s'en persuader elle-même et développer réellement ses facultés positives. L'inverse fonctionne aussi. Si vous êtes persuadé que quelqu'un est mauvais, il intégrera cette image que vous avez de lui, car vous aurez inconsciemment tendance à éviter son regard, à lui parler avec un ton plus dur et un visage plus fermé. Et cela influera grandement sur son estime de soi, sur ses performances et sur ses actes. Cette prédiction autoréalisatrice est appelée effet Pygmalion quand elle est positive et effet Golem quand elle est négative.